Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours. Eh bien, vous commencez à connaître, hein, mais je le répète pour ceux qui entendraient comme ça par hasard en passant dans la région. Ce sont des contes sur Radio CFM, des histoires, des légendes, des souvenirs. Voilà, plutôt aujourd'hui, quelques souvenirs imprécis, je m'en excuse, approximatifs, que ceux qui ont quelque chose à rectifier nous écrivent. Mais néanmoins intéressant, je l'espère en tout cas. Maintenant, quelques confidences. Je suis né au milieu du siècle dernier, à Montauban. Mon grand-père était photographe, notamment à Caylus, au début du siècle dernier, juste après la guerre de 14. Vous voyez donc de quel siècle il s'agit, le 20e, hein. Pourtant, au siècle dernier, c'est toujours lui, quand j'ai été conseiller municipal à la Vorette, lors des élections, un homme refusait systématiquement d'avoir affaire à moi pour les opérations de vote en s'exclamant avec force « C'est quand même pas un étranger qui va me dire ce que je dois faire chez moi !»
On est chez nous ! On est chez nous ! On est chez nous !
À l'époque, je pensais que c'était une exception. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y en a dans toute la France et qu'ils entendent tous la Jeanne d'Arc qui boutera les étrangers hors de chez eux. Quelle misère ! Rappelons à ceux qui ont la mémoire courte que de pareilles attentes n'ont jamais amené que du sang et des larmes, et ça pour tout le monde, au siècle dernier notamment. D'où l'utilité de l'histoire et de la mémoire, d'où l'importance aussi d'écouter la parole des anciens, qui, parfois radotent certes, mais bien souvent nous éclairent.
Paco depende el pe del Surie de la Semero, Paco depende el pe de la Semero del Surie, Paco depende el pe del Surie de la Semero, Paco depende el pe de la Semero del Surie, per pla la danza, yo escuto la música per pla burella, la calca danza, per pla la danza, yo escuto la música per pla burella, la calca danza, stop, dopo, 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 liom, plom, plom.
Au siècle dernier, donc, j'ai croisé une dame de mon âge qui avait une mère qui était une vieille dame. Et toutes les deux, la jeune traduisant un peu les paroles de sa mère, toutes les deux m'ont confié quelques souvenirs que je voulais partager avec vous. Donc, cette mère, la mère de cet ami, avait dépassé les 80 ans. Et on était à la fin des années 70. Calculez-vous même, elle était née non pas au siècle dernier, mais à l'avant-dernier, soit à la fin du 19e siècle. Son grand-père, ah oui, là on remonte encore, Joseph, avait une petite ferme avec un peu de terre, deux bœufs avec lesquels il travaillait ses lopins, mais aussi se louait pour travailler celle des autres au temps des labours. Il y avait aussi une vigne et quelques ruches qui lui donnaient un excellent miel. Le miel du Causse est fameux. Et pour faire bouillir la marmite, quand même, il faisait aussi le cordonnier, tout autant que le bourrelier, dans un petit atelier aménagé chez lui. Un petit paysan, donc, qui survivait grâce à sa pluriactivité, comme on dit aujourd'hui. Mais elle m'a surtout parlé, elles m'ont surtout parlé, la mère et la fille, de Élise, la mère et la grand-mère. Alors on remonte là, on se retrouve avec quatre générations de filles. Alors il y avait celle que j'ai connue, la plus jeune, c'était Clotilde, sa mère c'était Henriette, la mère d'Henriette c'était Élise et la mère d'Élise c'était Emma. Vous voyez, donc, c'est un peu compliqué. Quatre générations de femmes. Et Élise et Emma, donc les plus anciennes, qui étaient disparues déjà depuis longtemps, elles m'ont raconté qu'en dehors des travaux saisonniers de la terre qu'elles faisaient, comme toutes, elles avaient une autre activité, source de revenus. La confection des chapeaux de paille. Oui, c'était quelque chose dans la région. Et voici donc ce qu'elles m'ont raconté. Ma grand-mère, je l'ai toujours vue avec son chapeau de paille sur la tête. Elle était née en 1830 et elle avait connu, jeune, Pétronille Cantecor. Pétronille Cantecor, vous la connaissez. C'est celle qui a lancé la mode des chapeaux de paille. Hein. Une bergère qui a eu, comme ça, une intuition de tresser de la paille. Il y en a d'autres qui ont eu aussi des voix qui leur ont dit de faire des choses. Mais elle, c'était tout simple. Elle a tressé de la paille de seigle pour faire de la paillole, des petites, des rubans de paille. Et à partir de là, on fabriquait le chapeau de paille. Pétronille Cantecor qui a lancé la mode du chapeau de paille. Et cette grand-mère lui vouait un véritable culte à Pétronille et au chapeau de paille. Elle ne le quittait jamais. C'était le 19e, faut dire. Une époque où sortir son capelou, c'était comme aller cul nu. Personne ne le faisait. Et surtout pas les femmes. À part les filles gitanes qu'on voyait jouer l'accordéon à Saint-Antonin. Autant dire que rien sur la tête, ça faisait, comme on disait, mauvais genre. Toute petite, elle a commencé à tresser la paille de seigle. Et voilà, tout au long de l'automne, de l'hiver, elle tressait de la paille de seigle en gardant les moutons. Le soir, à la veillée, en marchant même, elle tressait bien fin, bien régulier. Après, on passait la tresse au roudelettes, un rouleau qui l'aplatissait, et on vendait ça à cette folle. Les chapelleries ne manquaient pas à partir des années 50. Je veux dire 1850. Attention, ne nous mélangeons pas dans les siècles. C'était pas très cher payé, hein. Si on avait compté les heures de travail, personne en ville n'aurait accepté un pareil salaire. C'était une misère. D'ailleurs, reconnaissons-le, c'est pour ça que la chapellerie a pu se développer à la campagne. Et oui, parce que là, la réussite est venue en grande partie du travail de toutes ces petites mains de bergères pour 3 sous. Vendre ailleurs pour un meilleur prix, c'était possible, par exemple au marché depuis la Roque, ou même à l'Albin, qui avait des marchés de la paille, puisque des chapeliers de Lyon, c'était à l'époque les plus gros concurrents de cette fond, venaient s'y approvisionner. Mais alors, si on commençait à vendre à d'autres, comme ça, plus question de se faire embaucher à cette fond comme couseuse. Parce que, et oui, c'était ça qui était intéressant, c'est que une fois qu'on avait tressé la paille, on pouvait encore continuer à travailler. Quand on avait fini les vendanges, ou bien qu'on avait lu un livre, on pouvait travailler comme couseuse. En fait, il y avait une entente, on peut dire, entre les tresseurs et les chapeliers de cette fond qui tenaient à leur matière première locale et bon marché. Les Lyonnais, eux, se plaignaient que la liberté du commerce ne soit pas respectée. Eh oui, éternelle question, libre-échange ou protectionnisme, les problèmes sont toujours les mêmes. Donc, Emma, si vous suivez, la grand-mère de Henriette qui m'a raconté tout ça, a commencé comme couseuse de chapeau à cette faune tous les jours avec ses sabots. Elle faisait ses 5 kilomètres pour descendre à cette faune et remonter le soir. Elle cousait à la main à l'époque, hein. C'était le début, il cousait à la main. Il y avait des contremaîtres qui venaient de Grenoble pour encadrer ça, parce qu'ils avaient l'habitude de ce travail. Même des ouvriers italiens qui faisaient, eux, la confection, le pressage, le garnissage. Les chapeaux de cette fond ont commencé à se vendre dans la France entière et même dans le monde entier. Et pourtant, la concurrence était rude. Il y avait l'Italie qui produisait en Toscane des chapeaux de paille, la Suisse, il y avait l'Angleterre, mais là, ils se sont bien débrouillés. Il faut dire que le petit-fils de Petroni, le bien nommé Fortuné, car il fera fortune, c'est un malin. Pour tout dire, il a le sens des affaires. La première presse, en 1870, la première machine à coudre, à pédale bien sûr, hein, avant même qu'il y en ait à Toulouse, eh bien, il y en avait à cette fond. Et voilà comment le métier, petit à petit, commence à changer. Il faut dire que avant, en cousant à la main, on arrivait à faire 10 chapeaux dans la journée, bon, ce qui est déjà une prouesse. Et moi, j'imagine que si j'y me mettais, j'en ferais même pas un. Et avec une machine, on en faisait 40 par jour. Et le métier, voilà, il passe petit à petit de l'artisanat à la petite industrie. N'exagérons rien, une petite industrie. Et la grand-mère Emma, elle arrive pas à se faire aux machines à coudre. Elle dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est plus comme avant. Maintenant, il y a du bruit. Maintenant, il y a des machines. Non, elle a arrêté. C'est sa fille, Élise, qui a continué et qui devient couseuse avant même d'avoir 20 ans. Et elle se débrouille. Elle se débrouille parce que elle coupe bien. Il y avait une manière de coudre correctement. Ces tresses fines ne pas. Il fallait avoir des beaux yeux, fallait se débrouiller pour faire à la forme comme il fallait. Enfin, après, les chapeaux étaient pressés quand même à une forme plus définitive, mais quand même, c'était un travail précis et du coup, elle va être repérée et elle va continuer à travailler dans cette chapellerie dont je tairai le nom jusqu'à devenir de celle qui font la finition, les garnisseuses, parce que au tout début, on faisait la tresse de paille, on faisait le chapeau de paille, et puis après, on le laissait finir ailleurs. Mais là, à cette fond, les chapelleries ont pris tout à même pour avoir des chapeaux finis qui pouvaient se vendre. Et il fallait des garnisseuses qui font la finition. Et c'est aussi une histoire de mode, parce que si on fait des chapeaux qui plaisent pas à la clientèle, eh bien, ma foi, c'est la faillite assurée. Donc, elle fera partie de celles qui, au début de l'été, préparent les nouvelles collections dans le plus grand secret. Parce qu'il y avait des dizaines, même voire des centaines de modèles. Dans le plus grand secret, elle préparait les collections. Après, les commerciaux partaient pour les présenter et si ça plaisait, les commandes arrivaient. C'est comme ça qu'elle épouse un ouvrier italien venu à cette forme pour la chapellerie et tous sont dans le chapeau jusqu'au cou. Et oui, c'est pas facile de durer pour la chapellerie. Il faut pas se planter. Si la mode change, comme je disais, on peut couler. Voilà pourquoi aussi, à l'époque, on faisait aussi des chapeaux de feutre, parce que le feutre, par exemple, il a connu des époques glorieuses, puis des déclins subis. À une époque, à Toulouse, on voulait plus des chapeaux de feutre, on voulait des chapeaux de soie. Après, le feutre est revenu à l'honneur. Allez-vous en savoir ce qui se passe dans la tête des acheteurs. Et puis, aussi, ce qu'il y avait, c'est que le chapeau était un marqueur social. Bon, on connaît le béret du paysan, la casquette de l'ouvrier, le chapeau du bourgeois. Mais ça a évolué à partir de, du 19e siècle, et après ça a évolué, c'est devenu plus subtil, ça s'est mélangé tout ça à des effets de mode. Et par exemple, tenez, le chapeau de feutre qui a connu ses hauts et ses bas, mais il n'y en avait pas qu'un. Il y avait le feutre en poil de castor et de loutre, ça c'était des chapeaux pour les bourgeois, des chapeaux de luxe. Il y avait des chapeaux pas mal appréciés aussi, c'était le poil de lièvre. Et puis, bon, ben pour le peuple, on va dire, ben c'était le poil de lapin. Et bien sûr, c'est pareil pour le chapeau de paille. La paille de seigle locale, elle est bien, elle convient bien pour un chapeau ordinaire, pour les milieux populaires, disons. Mais dans les classes aisées, oh, on veut autre chose quand même. Et voilà pourquoi très vite, la paille est venue d'ailleurs de Toscane, de Suisse. Et bientôt, grâce à Fortuné Cantecor, toujours lui, le petit-fils de Pétronille, un jour chez un marchand, il voit de la paille, de la tresse de paille tellement fine, elle vient de Chine. C'était des Anglais qui l'importaient. Eh bien, assez vite, cette paille de Chine va devenir une des matières premières essentielles à la chapellerie de cette faune. Et pourquoi ? Parce que d'abord, elle est plus fine, elle est plus belle, et surtout, elle est pas chère. Ah oui, déjà, la Chine cassait les prix. Et c'était déjà la guerre commerciale. On croit que le bon vieux temps était tranquille, sans fluctuation, mais que diable ! Regardez, à Caussade, par exemple. Eh bien, le train s'est arrêté, oui. On a fait une gare. Ça a changé beaucoup de choses. La plupart des chapeliers de cette fond ont ouvert des succursales à Caussade. Parce que si on fabriquait à Caussade, on économisait le transport de cette fond à Caussade. Ça fait baisser le prix. C'était à cette époque-là qu'a commencé aussi une sorte d'espionnage industriel à grande échelle. Les cochers qui, au début, étaient ceux qui livraient les chapeaux. Les chapeaux étaient emballés par 12, et puis après, il y avait des caisses, des grosses, où c'était 12 fois 12, et on empilait ça sur des charrettes, et vous avez dû voir les images gigantesques, parce que le chapeau de paille est tellement léger qu'on peut en mettre. Et ils partaient livrer ces chapeaux loin. Et les cochers ont relevé les adresses des clients et, dit-on, les revendaient à la concurrence. Il y avait déjà tout un tas de manigances. Il y avait même, à cette époque aussi, une guerre des gangs. Et oui, entre Caussade et cette fond, c'était pas vraiment très tendre. On peut dire que c'était la zizanie. Et les jeunes garçons s'affrontaient régulièrement. Ils s'attendaient dans les bois, là-bas, dans les pentes. Ils se canardaient à la fronde. Combien d'aventures, combien de bagarres, combien de blessures aussi. Alors, le mari d'Élise, Enzo, il devient représentant et il part dans toute la France conquérir des marchés. C'est comme ça que la chapellerie de cette faune s'est maintenue aussi, grâce à ceux qui partaient présenter les collections, les chapeaux. Ils iront même jusqu'aux expositions universelles aux alentours de 1900. En bref, c'est la belle époque et c'est aussi l'apogée de la chapellerie à cette fond qui compte 25 usines, 2000 employés. Et cette fond était à cette époque-là une ville moderne. Vous veniez de Belfort, de La Pinche ou bien de La Vorette ou de Saint-Georges à cette fond, mais c'était une capitale. Il y avait deux cinémas, il y avait deux salles de spectacle, il y avait des cafés, il y avait des boucheries, des charcuteries, il y avait des cafés. Et un monde fou qui, on le voyait bouger au coup de corne, parce que un peu avant, c'était comme à l'école, vous vous rappelez sans doute, il y a d'abord une sonnerie ou une cloche un peu avant, et puis après, il y a celle qui vraiment, là, il faut être rangé devant la classe. Et bien, c'était pareil. Il y avait le coup de trompe qui annonçait que, attention, 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 la pause allait finir, le repas allait finir, et puis le deuxième, il fallait être rangé pour rentrer dans l'atelier pour travailler. Henriette, elle, est née à l'âge d'or, donc, de cette chapellerie, à l'époque où tout le monde veut un canotier ou un panama, au début du siècle dernier. Ses parents étaient dans les chapeaux, elle y a plongé aussi. Malheureusement, dit-elle, si ma grand-mère avait connu l'essor de la chapellerie et mes parents l'apogée, moi je n'ai eu droit qu'au déclin. C'est un peu vrai, parce que il faut savoir que sortez de cette fond écossade, on va rassembler les deux, parce qu'au fond c'est le même bassin de travail, vers 1910, sortez 10 millions de chapeaux par an. La moitié de toute la production française, c'est pas rien, et c'était distribué dans toute l'Europe et au-delà, puisqu'on retrouvait ces chapeaux en Amérique du Sud, en Amérique, en Afrique, bien sûr, enfin bref. Mais ça, c'était en 1910, et puis en 1914, ben les gens ont préféré, enfin certains ont préféré mettre des casques que des chapeaux de paille, et ça a mal tourné. Et après la guerre, c'est reparti un peu, parce que la mode n'était pas terminée, mais dès que les voitures sont arrivées, ça a été un peu le coup de grâce. Pourquoi ? Ben parce que dans une voiture, si vous mettez un chapeau, eh bien ma foi, il s'aplatit sur le plafond, il tombe, et puis en plus on en a absolument pas besoin puisque on est protégé du soleil. Oh, il y a eu des remous, hein. Le déclin ne s'est pas fait sans remous. On se rappelle encore à Caussade et à cette faune de la grève très dure de 1930. Mais après, que voulez-vous ? Deuxième guerre mondiale, à nouveau les casques. Alors aujourd'hui, il reste surtout de beaux souvenirs. Certes, quelques chapelleries tournent encore et souhaitent leur longue vie, mais quand même, la grande époque est finie. La faute à qui ? À qui faire porter le chapeau ? Et Henriette dit, méfiez-vous de ceux qui parlent de grandeur nationale et de protéger nos emplois. Ils oublient que sans le commerce international, aucune chapellerie n'aurait existé à cette fond. Sans la paille de Chine, les cloches de chapeau de Java, aucune production, sans les clients américains du Nord et du Sud, ceux d'Europe et d'Afrique, aucune exportation. Et ce, déjà au siècle avant-dernier. Hein. Elle dit aussi qu'elle a connu les grèves dures de 1930, qui ont rien donné non plus. Elle dit, méfiez-vous des grandes promesses d'avenir radieux. L'avenir, dit-elle, se tisse au jour le jour, avec de l'amour et de la patience. Tout comme les capelous des pailles. Voilà, merci à Clotilde, Henriette, Élise, Emma, pour cette petite évocation que j'ai faite un peu avec mes souvenirs, venus de leurs souvenirs, etc. Une parole qui s'est transmise. Eh bien, c'était Marco, compte à rebours. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.